L'éducation, un métier d'éternité, c'est maintenant avec Inès de Franlieu. Inès de Franlieu, bonjour.
Bonjour Sandra. Eh bien, je suis heureuse de vous retrouver en cette semaine pascale. Et c'est pour ça que j'ai choisi la thématique de la joie dans nos familles. Voilà, nous avons la chance, nous chrétiens, de pouvoir nous réjouir très, très régulièrement. Je me faisais vraiment cette réflexion le jour de Pâques, me réveillant, voilà, alors qu'il ne faisait pas très beau et que le temps est maussade. Eh bien, la joie était pourtant au fond de notre cœur, ou même débordait de nos cœurs, en mettant la table du petit déjeuner qui était à nouveau garnie, plus que d'habitude, et certainement beaucoup plus qu'au moment du carême. Donc, évidemment, je vous ai déjà un tout petit peu parlé, chers auditeurs, de cette notion de la joie qui était liée au fait que nous soyons chrétiens, et qui nous permettait de découvrir que la joie était souvent liée et le fruit de l'attente. Voilà, nous en avions parlé au moment de l'Avent, en disant, et je vous avais dit, ne volons pas la joie de nos enfants, c'est-à-dire, eh bien, ayons le courage de leur apprendre l'attente, parce que nous avons attendu, alors nous nous réjouissons. Et nous avons à nouveau expérimenté la chose avec ce temps plus particulier, plus particulier voilà, du carême. Je dis plus particulier parce que il demandait au cours de ce temps d'attente, même il était, j'allais dire, doublé d'un temps de réelle pénitence. Et voyez que le manque, eh bien, fait désirer les choses qui nous semblent très anodines dans le quotidien. Et il est important, en fait, de goûter, de laisser, de faire goûter à nos enfants cette joie qui vient de l'attente. Et je crois qu'à nouveau, à Pâques, eh bien, nous avons pu la goûter. Et donc, elle était liée, cette joie de Pâques, à l'attente et à ses pénitences. Et je vous avais dit l'importance de la pénitence d'ordre physique, c'est-à-dire arriver et avoir le courage en famille de se passer voilà, de choses de sucreries très anodines. Et j'avais même dit, n'ayons pas peur de supprimer le beurre et la confiture des tartines de nos enfants, on va pas en mourir. Voilà, j'allais dire physiologiquement, il n'y a pas une nécessité à cela, et pourtant c'est extrêmement difficile à faire. Et donc on rentre véritablement dans cette pénitence qui prend du sens parce qu'elle était offerte. Hein, et nous avions dit que nous pouvions encourager nos enfants à être des Simons de Cyrène, et parce que nous avons eu le courage de cette attente et de même de cette pénitence, alors Pâques a une saveur toute particulière, bien sûr, qui passe par nos papilles gustatives. Et voyez que, du coup, la joie d'un bon repas, elle est doublée quand on a fait pénitence avant. Et évidemment, toute cette joie qui vient de nos papilles, eh bien, vient manifester une joie beaucoup plus profonde, qui est celle du chrétien sauvé par la croix du Christ. Et je trouve ça toujours beau de voir combien cette joie profonde peut être ancrée, manifestée dans nos corps, et que le Seigneur a permis le plaisir qui donc est de l'ordre corporel, qui vient manifester et ancrer en nous, parce que nous sommes incarnés, et bien vient incarner justement la joie spirituelle. Et donc, nous, en tant que parents, nous pouvons et nous sommes là pour apprendre à nos enfants et donc leur faire goûter cette joie spirituelle qui va passer par la joie plus physique, d'un bon repas, d'un pot de Nutella retrouvé et qui a vraiment le goût de l'Alléluia. Et voyez que, de nouveau, chers parents, combien nous sommes à ce moment-là bien des éducateurs et des éducateurs à la joie. Si nous voulons que nos enfants goûtent de vraie joie, c'est à nous de les mener sur ce chemin qui passe par un chemin d'attente, de pénitence et qui permettra de véritablement goûter la joie. Vous voyez que, à nouveau, nous nous retrouvons face à ce qui appartient en propre aux parents, qui est d'être des guides dans la vie pour nos enfants. Et ces joies-là, l'enfant ne pourra pas les découvrir par lui-même parce que l'enfant est dans l'immédiateté et que ce qu'il souhaite, ce qu'il veut, c'est le plaisir et c'est tout à fait légitime. Vous voyez qu'un nourrisson, eh bien, il pleure et il pleure parce qu'il a faim et tant qu'il n'est pas nourri, donc tant qu'il n'a pas ce plaisir qui vient le soulager, bien évidemment, eh bien, il pleure. Petit à petit, les parents, nous sommes appelés à faire découvrir et donc à faire vivre à nos enfants que nous sommes appelés à choisir le bon et le bien plutôt que le facile et ce qui fait plaisir. Pourquoi? Parce que notre objectif est à long terme. Donc, nous sommes, nous, les parents, appelés à transformer, à permettre à l'enfant de devenir adulte. Et vous allez me dire, non mais ça se fait tout seul. Non, 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 non. Nous parlons aujourd'hui de société adolescente. Voyez, c'est-à-dire que nos enfants peuvent ne pas réussir à passer véritablement à l'âge adulte. Non pas corporellement, parce qu'en effet, c'est pas nous qui allons faire que l'enfant, bien sûr, on a cette responsabilité qu'il soit correctement nourri et que la dénutrition, évidemment, a un impact sur le développement corporel de l'enfant, bien entendu, mais ça, dans nos pays gâtés, et puis aujourd'hui, ce n'est plus un thème, quoique, comme vous pourriez me dire, quoique, on voit bien que malheureusement, l'obésité se développe énormément et qu'on sait bien que là encore, souvent, c'est lié, je mets à part les cas véritablement d'une maladie, mais que bien souvent l'obésité, elle vient parce que justement, on accède en tant que parent simplement aux envies de nos enfants, que l'on mange devant la télé, que l'on mange que ce que les que l'on accepte de donner aux enfants ce qu'ils nous réclament et que ce qu'ils aiment. Et ça se finit en knackis et beaucoup en chips et puis en soda. Et les nutritionnistes aujourd'hui s'affolent en disant « Attention, ce n'est pas bon à la santé de nos enfants. » Donc vous voyez, même très basiquement, c'est vrai que nous sommes quand même aussi responsables et donc guides pour que nos enfants apprennent à se nourrir correctement. Mais cet aspect-là mis à part, le corps se développe normalement de par lui-même, voilà, de façon à peu près cohérente. En revanche, être adulte ne demande pas simplement d'avoir un corps d'adulte, puisque nous ne sommes pas que corps, et donc nous sommes appelés à développer toute la transcendance qui fait partie de la personne humaine, c'est-à-dire, on peut dire l'esprit, cette capacité à réfléchir, bien sûr, et puis ce cœur, cette capacité à aimer. Et être adulte, c'est être capable, évidemment, de surmonter et de voir et de savoir que l'on peut être heureux malgré le manque, malgré la déception, malgré l'échec, etc. Donc là, on a encore une fois un très grand rôle à jouer. Le thème étant aujourd'hui la joie, vous voyez que nous avons à apprendre à nos enfants à goûter aux vraies joies. Et donc, de ne pas s'affoler par le manque qui est venu de la pénitence. Ne t'inquiète pas, tu es capable de surmonter ce manque et c'est parce que tu le surmontes que tu vas pouvoir goûter la joie du plaisir retrouvé, la joie d'une gâterie et d'une sucrerie supplémentaire qui, si elle n'est jamais supprimée, passe pour quelque chose qui nous est dû. Et ça, c'est très important de réaliser que la joie vient non pas de ce qui est dû, mais de ce qui est reçu. Voyez ? Et donc, il est important que nous n'accédions pas à toutes les envies de nos enfants, parce que sinon, eh bien, ils expérimenteraient le message que cela passerait, c'est que si nos envies ne sont pas remplies, on ne peut pas être heureux, ce qui est totalement faux, évidemment. Et qui même va façonner un futur adulte dans cette mentalité, parce que c'est ce qu'il aura expérimenté, que tout doit tourner autour de ses envies, et que donc s'il n'est pas rempli dans ses envies, eh bien, il en veut à l'autre. Et voilà aussi pourquoi il est très important d'apprendre très très tôt à l'enfant, puisque tout ce qui est acquis et tout ce qui est appris dans l'enfance, eh bien, sera plus facile à développer et à ancrer profondément que si on s'y prend plus tard, eh bien, apprendre à notre enfant à dire merci. Ce merci qui peut être appris déjà à l'enfant petit, hein, 13 mois, même quelquefois, même avant ses 1 an, grâce au langage du corps. Et voyez que le merci, c'est la main qui se ferme sur elle-même. Le s'il vous plaît, eh bien, c'est la main qui se met sur le cœur. Quand on apprend à l'enfant à dire merci, eh bien, nous allons cultiver une joie qui va venir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que quand l'enfant dit merci, petit à petit, il va expérimenter, ressentir que ce qu'il reçoit n'est pas un dû, bien au contraire, mais qu'il a la chance qu'on se soit occupé de lui. S'il n'apprend pas à dire merci, il aura l'impression que ce qu'on lui donne, que ce qu'il reçoit est un dû. Et nous ne sommes pas heureux avec des dûs, mais nous sommes heureux grâce aux cadeaux. Eh bien, lorsque une maman donne un repas à son enfant, vous allez me dire, de la part du parent, c'est un dû. C'est vrai. Nous devons, en tant que parents, subvenir aux besoins de nos enfants. Et bien sûr, le premier besoin, c'est d'être nourri. Mais si vous apprenez à votre enfant à dire merci, eh bien lui va expérimenter, ressentir petit à petit qu'on s'occupe de lui. Et ça, ça lui fait du bien. Et donc, alors même qu'il n'a pas beaucoup aimé le dîner, il peut tout de même apprendre à dire « merci maman pour le dîner ». Ça n'est pas simplement « merci quand c'est bon, parce que moi j'aime ça ». C'est « merci parce que tu t'es occupé de moi ». Et alors qu'au menu il y avait des épinards, nous ne demandons pas que les enfants apprécient forcément dès l'âge de 3 ans les épinards, mais nous leur donnons des épinards parce qu'on sait que c'est bon à la santé. Premier point. Et deuxième point, parce que nous voulons leur apprendre à manger de tout. Pourquoi à manger de tout? Eh bien parce que, socialement parlant, il est important qu'un enfant puisse s'inscrire, hein, et s'insérer ensuite dans la société, et que lorsque l'enfant apprécie et finit par aimer tout, parce qu'il a goûté de tout, et que petit à petit, il se rend compte qu'en fait, ces épinards qu'il n'aimait pas à 3 ans, à 5 ans, ils sont devenus bons, nous l'avons fait bien grandir, et nous lui donnons une capacité à s'insérer dans la société. Quand un enfant, un jeune de 10 ans, est invité chez un ami et qui se dit, pourvu qu'il y ait des coquillettes et des knackis parce qu'il n'aime que ça, il n'est pas... On ne lui a pas donné les clés du bien-être et pour aller bien donc, dans la société. Vous voyez, il finira par avoir peur parce qu'il a eu comme message « Tu ne seras heureux que quand tu as ce que tu veux. » Donc nous, en tant que parents, c'est bien nous qui sommes les guides pour nos enfants, les guides pour leur faire comprendre quel est le chemin de la vie, un chemin qui sera source de joie. Je le disais en début de cette émission, puisque nous sommes dans cette octave pascale et qui est vraiment le temps de la joie du chrétien. Et vous voyez que l'Église, dans sa sagesse humaine, nous donne des temps, voilà, des temps à vivre, et que après Pâques, eh bien, il y a encore cette octave pascale, comme il y a l'octave d'ailleurs après Noël. Cette octave, c'est vraiment de nous dire savourons la joie. Souvent, quand j'accompagne un jeune qui va pas bien ou un couple en difficulté, etc., je leur montre et j'essaye de les guider en leur disant savourez ce petit mieux. Voilà, gardez-le en bouche. Vous voyez, quand on donne l'habitude d'une certaine malbouffe, c'est-à-dire de ne manger que ce que on apprécie, voilà. Et puis, enfin, on apprécie, je veux dire, voilà, une nourriture pas très bonne à la santé. Des fraises qui arrivent d'Espagne, bien souvent, et qui n'ont pas vraiment beaucoup de goût. Et puis, vous tombez, parce que vous vous baladez dans la forêt, vous tombez sur une petite fraise des bois. Elle est minuscule, elle n'a pas beaucoup de... Elle semble toute petite, bien cachée sous ses feuilles. Et quand vous la goûtez, quand vous la prenez, vous réalisez qu'en fait, elle a une saveur incroyable. Et on avait oublié même la saveur d'une fraise. Eh bien, il faut la garder en bouche, voyez, il faut la savourer. Et je crois que c'est exactement ça que nous donne ces temps liturgiques, et donc particulièrement cette octave de Pâques, c'est d'apprendre à savourer la joie, voyez, s'arrêter sur les moments qui sont source de joie. Et le chrétien, eh bien, qui est un homme comme un autre, et pourtant pas du tout comme un autre, ne devrait pas l'être. Malheureusement, il est aussi pris par une société qui est une société de l'immédiat, une société qui va vite, et on a tous peut-être un peu perdu cette capacité à savourer les choses. Voyez, et je crois qu'il faut la retrouver, et l'Église nous donne ce chemin en nous disant, ah voilà, nous avons été sauvés par le Christ, c'est... La plus grande joie du chrétien, c'est de connaître que nous sommes appelés à cette vie éternelle, que nous avons été sauvés du péché, sauvés du mal par le Christ, et il nous donne tout un temps pascal, d'abord cette octave. Et comment le vivre, cette octave, avec nos enfants, voyez? Eh bien, malheureusement, avant, dans une société qui était plus chrétienne, voilà, qui avait réalisé à quel point les racines chrétiennes de la France faisaient que nous n'étions pas dans la barbarie, les vacances des enfants étaient à Pâques, et on parlait des vacances de Pâques. Et puis petit à petit, on a parlé des vacances de printemps, sans doute pour des raisons économiques, nous avons ces différentes zones, et vous voyez que malheureusement il est très difficile de vivre ces temps liturgiques avec nos enfants, parce qu'ils nous sont volés par nos métiers, ça on ne peut pas faire autrement, mais aussi les enfants n'ont plus ces temps scolaires qui étaient un peu calqués sur les temps liturgiques. Alors, ça demande une plus grande vigilance aux parents chrétiens, évidemment, pour essayer de trouver, de laisser évidemment la décoration, peut-être que l'on a pu faire, de la salle à manger, de cette table de Pâques, laissons des décorations. Voilà, peut-être continuer à avoir une nourriture cette semaine où on dit régulièrement « Ah, je vous ai fait ce bon repas parce que nous sommes encore dans ce temps pascal. » Voilà, et vous voyez que si nous suivons le calendrier liturgique, nous voyons que nous, les chrétiens, nous avons une chance folle parce que nous avons de nombreuses fêtes chrétiennes à fêter. Voilà. Et que le cœur du chrétien peut se réjouir régulièrement. Au cours, juste avant Pâques, nous avons eu la fête de Saint-Joseph. C'était le moment de fêter son papa. Voilà. Et là, il y avait rupture de carême, la fête de Saint-Joseph. Voyez. Donc, nous avons de nombreuses fêtes liturgiques, de nombreux saints à fêter, et je crois que ça vaut la peine de faire un petit effort culinaire, de faire un petit effort au cours de la prière familiale, voilà, peut-être nous les mamans, de nous lever de façon un peu plus gaie, pour dire « Ah, aujourd'hui, les chéris, c'est la fête de Saint-Joseph, aujourd'hui, c'est la fête de l'Annonciation, voilà, faisons goûter à nos enfants la joie d'être chrétiens. » Et puis, alors plus... Peut-être encore plus concrètement, dans l'éducation, qu'est-ce qui va permettre encore de cultiver la joie? Eh bien, de nouveau, ça nous incombe, nous les parents, d'avoir un regard qui s'émerveille. Qui s'émerveille de quoi? Eh bien, de nos enfants. Vous voyez, je suis frappée, je vous l'avais déjà dit, combien aujourd'hui, la mentalité actuelle n'est plus à la vie. Voilà. Je rencontre beaucoup de jeunes filles, de jeunes femmes, on va dire plutôt de jeunes filles, de lycéennes, qui ne veulent pas donner la vie. Voilà. Donc elles ne sont pas bien dans leur corps, elles ne pensent évidemment qu'à leur carrière professionnelle, donc à leurs études, je ne dis pas que ce soit inutile, mais sans doute incomplet. En tous les cas, elles ne veulent pas donner la vie, elles ne veulent pas avoir d'enfants, pour ne pas abîmer la planète, ou pour quelque raison que l'on puisse imaginer. Peut-être que nous avons nos parents à nous poser cette question. Comment cela se fait-il? Comment nous parlons-nous à nos enfants? Avons-nous le voilà, faisons-nous attention de dire et voilà, de manifester la joie que nous avons d'avoir des enfants. La joie de la vie. Hein? La joie de la vie qui vient, la joie de la vie, la joie d'avoir des enfants. Nous devons la cultiver. Et vous verrez, vous allez vous dire, c'est peut-être très exigeant. Ça, de nouveau, ça nous incombe d'être joyeux. Et alors que, eh bien, il y a des moments où nous avons des inquiétudes bien légitimes, etc. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça semble exigeant. Et je comprends que vous puissiez parfois vous dire, mais elle ne se rend pas compte des difficultés de la vie qui vient peser sur notre cœur. Je ne veux pas les nier. Et en même temps, vous voyez, se dire, manifester la joie va aider nos enfants à se sentir bien dans leur basket, à se sentir aimés. Et vous savez, tout ça, ce sont des vases communicants. Et parce que j'ai le courage, voilà, de manifester cette joie, eh bien, en fait, ça va faire du bien à nos enfants, mais en fait, ça va nous faire du bien à nous aussi. Il faut de temps en temps se reprendre et, voilà, s'interdire parfois, voilà, de façon assez volontaire, vous voyez, de se dire, oh là là, je récupère mes enfants, là, ils vont être énervés, fatigués par l'école, je récupère mes enfants, ils sont allés jouer dehors, tout est dégueulasse, il a fait du sport, mais il arrive et il salit la maison avec ses chaussures, voilà. C'est vrai tout ça. Mais essayons, voilà, de poser un regard nouveau, essayer de renouveler, vous voyez, dans ces temps liturgiques, c'est ça aussi que l'Église, hein, nous propose, de renouveler régulièrement notre regard. Hein. Et voyez, c'est au lieu d'entrer dans une routine, hein, qui nécessairement arrive parce que le quotidien est routinier, eh bien, de vouloir rompre, vouloir couper avec la routine pour renouveler notre regard d'admiration face à la vie et donc face à nos enfants. Et ça m'amène à vous parler de ce regard d'admiration face au progrès, au don de chacun de nos enfants. N'oublions pas, il y a une vraie différence entre la flatterie et l'admiration. La flatterie est un regard qui est tourné vers soi, c'est-à-dire je suis flattée parce que mon enfant réussit bien à l'école. Et en fait, voilà, c'est moi qui suis flattée d'avoir un enfant brillant. Ça n'a pas beaucoup de valeur parce que c'est de nouveau par rapport à soi-même. En revanche, l'enfant qui a fait un progrès, non pas forcément tout de suite visible dans sa note, mais parce qu'il s'est un peu plus concentré, parce que voilà, il a accepté, même si ça a été un peu difficile, de ne pas aller refaire une partie de foot avec son copain, ou une de nos filles qui a accepté de couper, de moins regarder sa série Netflix. C'était peut-être son effort de carême. Est-ce que nous avons su, voilà, avoir ce regard d'admiration sur nos enfants, sur les efforts qu'ils ont faits, voyez? Et je crois que ça fait partie de la joie et que nos enfants ont besoin que nous soulignions le petit pas, le petit mieux, le petit progrès. Voyez, pour pouvoir souligner, verbaliser le petit pas, le petit mieux, le petit progrès, il nous faut cette attention à l'enfant. Voyez, ce qui bien souvent nous empêche d'avoir ce mouvement vers l'enfant, bien souvent, c'est que nous trouvons que c'est normal. C'est normal qu'il ait mis la table. C'est normal qu'il ait rangé et qu'il ait défait ses chaussures qui étaient sales. C'est normal qu'il ait rangé son assiette dans la machine à laver. Je lui apprends ça depuis qu'il est petit. C'est normal. Mais ce « c'est normal » est un tue la joie. Voyez, nous allons avoir une relation bien supérieure à notre enfant quand on est capable de se dire « Mais il y a 2 jours, il avait râlé en mettant son assiette dans la machine et aujourd'hui, je m'aperçois qu'il le fait sans râler. Je peux lui dire, je peux le verbaliser. » Merci mon chéri, c'est tellement agréable de voir que tu mets ton assiette dans la machine. Ah, ça m'a fait plaisir. Et vous voyez que Nous lui disons pas avec un verbe d'état « tu es une merveille », mais nous lui disons que ce qu'il a fait nous met dans la joie. Et peut-être que pour ne pas éduquer des bons petits soldats qui font les choses juste bien parce que maman les a demandées, mais on fait les choses bien aussi parce qu'on expérimente que ça nous fait du bien, de temps en temps dire à l'enfant qui a fait un effort, qui a fait quelque chose de bien, peut-être quand même en râlant, lui dire « Et toi, est-ce que ça t'a mis dans la joie ?»« Moi, ça m'a mis dans la joie, et toi ?» Et peut-être qu'il vous dira « Bah non, pas du tout, de toute façon, c'est toi qui l'as demandé. » C'est pas grave. Le fait de lui avoir posé la question « Et toi ?» lui permet, de temps en temps, voyez, de s'intérioriser, de faire ce mouvement, dans un premier temps peut-être inconscient, hein, de se dire « Tiens, est-ce qu'en effet, en faisant le bien, est-ce que je ne me sens pas bien ? » C'est-à-dire, est-ce que je ne peux pas expérimenter une forme de joie ? Le bien, la joie, le bien, ça va bien souvent ensemble, voyez ? Et donc, pour qu'il puisse faire ce retour sur lui, il est important et de manifester que ce qu'il a fait est chouette, voilà, qu'on le remercie de l'aide qu'il a faite, plutôt que de se dire « c'est normal », et de temps en temps lui dire « Et toi, est-ce que ça t'a fait plaisir ?» En fait, est-ce que ça t'a fait plaisir de faire le bien? Non, c'est pas grave. On ne force jamais le sentiment d'un enfant. Par contre, le guide pour que petit à petit, il puisse l'expérimenter. Donc, vous voyez, cultiver la joie, c'est, et voyez que c'est toujours des vases communicants, parce que si moi je suis capable d'observer le petit progrès de mon enfant, bien sûr que ça va faire du bien à l'enfant, mais combien ça va me faire du bien, voyez? Parce que moi-même, je m'enthousiasme, et quand je m'enthousiasme d'un progrès, moi en tant que maman, je vais mieux, voyez? Et donc c'est vraiment important cette capacité, hein, à verbaliser le petit pas, le petit progrès, le petit mieux. Ce qui nous empêche, je le répète, de le faire, c'est très souvent parce qu'on se dit que c'est normal, ou alors, bien sûr, parce qu'on attend le parfait. Et que notre enfant qui est grognon, notre enfant qui ne rend pas service, eh bien, on ne se rend pas compte que le petit service qu'il a rendu, eh bien, c'est déjà un progrès. On voudrait qu'on n'ait même plus besoin de lui demander ce service parce qu'il a 10 ans et qu'il devrait savoir maintenant qu'on doit mettre la table. Voilà. Mon Dieu, ce que l'éducation prend du temps, hein? Mon Dieu, ce que ça demande de patience et de persévérance pour les parents, bien sûr, rien n'est acquis définitivement. Mais si, voilà, je veux garder ce dynamisme dans l'éducation, eh bien, je crois que ça passe par ce regard d'émerveillement des petits progrès, voilà, qui nous empêche de déjà d'attendre le parfait. Hein, cet émerveillement, et voyez que ça va mettre de la joie pour nos enfants, et puis évidemment la joie pour nous-mêmes, parce que nous nous émerveillons des progrès de nos enfants, sans attendre le parfait. Voilà, et ça c'est vraiment quelque chose, je crois, qu'il faut que nous cultivions. Cultiver la joie, et quel va être le fruit de cet état d'esprit que nous allons mettre à la maison, eh bien, c'est que eh bien, la maison devient un foyer chaleureux. J'aime énormément ce terme de foyer. Vous voyez qu'il est très décrié parce qu'être mère au foyer n'est pas reconnu, c'est le moins qu'on puisse dire, n'est pas reconnu comme un véritable métier. Pour moi, il en est un. Hein. Un foyer, c'est chaleureux. Voilà, c'est chaleureux et... Si c'est chaleureux, eh bien c'est l'endroit où l'on est prêt à revenir, où l'on voudrait revenir parce que l'on sait que l'on y est accueilli chaleureusement. Eh bien justement, si nous prenons l'habitude de cultiver la joie, si nous prenons l'habitude d'observer et de verbaliser les progrès, donc d'encourager nos enfants, la maison devient un lieu où l'on se sent bien, voyez, où nos enfants ont envie de revenir. Alors, c'est très important parce que vous voyez que petits, j'allais dire, ils n'ont pas le choix. mais que, en grandissant, ils peuvent relativement tôt ne plus avoir envie d'être à la maison, mais de se sentir mieux avec leur bande de potes. Et donc je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, tout est fait pour arracher l'enfant à ce foyer familial. Voyez. Et le premier objet qui va, c'est pas le premier, mais un objet qui va arriver très tôt dans la vie de nos enfants, c'est ce fameux portable qui, en fait, va mettre, le terme est exact, un écran entre moi, l'adulte, moi, le parent, et mon enfant. Et vous voyez qu'à partir du moment où l'enfant a un portable, eh bien, il est en lien avec l'extérieur beaucoup plus facilement. Il est à la maison, mais il n'est plus à la maison, puisqu'il est avec sa bande de potes. Donc, ne donnons surtout pas trop cet outil, pour beaucoup d'autres raisons que je ne peux pas aujourd'hui développer ici. Mais vous voyez, je crois aussi qu'il, pour cet aspect-là, qu'il va empêcher la saine et la bonne relation avec les parents et que nous avons à cultiver la relation. Et il faut que nos enfants se sentent accueillis pour avoir envie d'être à la maison. Et je dis bien d'être et non pas qu'à la maison, on fasse beaucoup de choses. Voyez, on reparlera sans doute de comment préparer les vacances, parce que c'est un grand moment aussi dans la vie familiale. Qu'est-ce que c'est que les vacances? Et je vous encouragerai à avoir des temps pour être ensemble et pas toujours faire des choses, mais être, goûter la joie d'être ensemble. Hein. Et bien, pour avoir envie d'être ensemble, il faut que nos enfants ressentent que quand ils sont avec nous, nous sommes heureux. Et je vous le dis, la joie, elle est communicative. La joie que je vais donner à mes enfants, elle reviendra sur moi parce que je vais aussi, moi, expérimenter que mes enfants vont mieux, que moi, en me forçant à leur faire goûter la joie qui vient de la famille chrétienne et qui fête les saints du paradis, qui fête les fêtes liturgiques, ça me met en joie, et donc la joie circule. La joie du parent qui voit son enfant progresser, hein, vous voyez que, peut-être ça peut être une image sur laquelle on va rester, et bien que le petit qui veut commencer à faire ses premiers pas, nous ne l'arrêtons pas en lui disant « Attends, tu ne marches pas encore assez bien ». Bien sûr que non. Nous lui tendons les bras en lui disant « Mais viens, vas-y, tente !» Réussi. Oui, super, voici un premier pas. Nous ne lui disons pas, t'en es que là? Bien sûr que non, voyez. Et la joie communicative, c'est-à-dire votre joie à le voir progresser, fait que votre enfant a le courage de se relancer à nouveau. Et ça vous met dans la joie. Voilà, cette joie, elle est communicative, cultivons-la dans nos familles. N'oublions pas, bien sûr, nous les familles chrétiennes, de cultiver la joie d'être sauvés.
Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission « L'éducation, un métier d'éternité » avec Inès de Franlieu. Notre thème d'aujourd'hui, comment cultiver la joie dans nos familles. Inès de Franlieu, peut-être une question concernant un... Alors je ne sais pas si c'est un trait de caractère ou une habitude qui est prise par des adolescents qu'on retrouve quelquefois à l'âge adulte. Oui. C'est-à-dire des adolescents qui vont prendre, vous disiez qu'il faut verbaliser les progrès qui sont faits, les adolescents qui vont prendre les compliments comme de l'ironie ou de l'hypocrisie et qui ne vont pas les accepter. Comment faire avec eux?
Oui, c'est une bonne question. Et je crois aussi que ça vient peut-être... voilà, dans l'habitude. C'est-à-dire que quand on n'a pas pris cette habitude, vous voyez, peut-être que l'enfant, devenu adolescent, en fait, se dit « c'est pas normal, là, hein, elle cherche à m'acheter ». Vous voyez ? Et puis, il y a une autre chose, c'est que par l'adolescence, hein, dans cette étape qui est toujours très intéressante, même si elle est très bouleversante, et très bouleversante et pour le jeune, et souvent, bien souvent pour ses parents, c'est une période où le jeune est très susceptible. Hein, et voilà. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur de cette susceptibilité et qu'il ne faut pas non plus laisser l'enfant dans cette susceptibilité parce que quand à l'âge adulte, vous vous retrouvez dans votre travail ou voilà, dans la société avec des gens susceptibles, vous savez combien c'est pénible en fait. On ne peut rien leur dire sans qu'ils prennent tout de façon exacerbée et contre eux, etc. Donc, il faut jouer pas mal quand même avec l'humour. Et quand le jeune prend mal votre réflexion, eh bien, je crois qu'avec un peu d'humour, il dit « Oh, je suis désolée parce que j'ai l'impression que quand je te fais un petit compliment, en fait, tu le prends super mal. » Mais sache juste, vous voyez, que moi, ben, je l'ai remarqué et ça me fait plaisir. Vous voyez, il y a quelque chose de très important, c'est que l'enfant a besoin de sentir qu'on ne fait pas les choses pour nous-mêmes, mais bien pour lui. Et donc, on ne force pas un enfant à entrer dans notre propre émotion. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, le jeune qui dit mais n'importe quoi, tu me dis, bah, ok, tu peux le croire comme ça. Voilà, ça c'est ton interprétation. Moi, je te dis que non. Voilà, moi, je te dis, j'ai remarqué ce petit effort. Et vous voyez, ne vous découragez pas, parce que en le faisant de façon ajustée, petit à petit, l'adolescent qu'il est, qui n'est pas encore un adulte, eh bien, va ressentir que le parent voit les progrès et ça lui fait du bien. Vous voyez, très souvent, l'image qu'il va vous renvoyer n'est pas celle exacte de. Vous voyez, il est moins transparent. Un enfant est transparent. Vous voyez, un enfant, il dit tout de suite ce qui va ou ce qui va pas. L'adolescent, tout est plus brouillé en lui. D'accord? Donc, l'image qu'il vous renvoie n'est pas forcément ce qui se passe en réalité. Mais comme il est à l'âge où il a besoin de se détacher de ses parents, petit à petit, il va prendre sa vie en main, eh bien, il fait croire, par son attitude, qu'il s'en fiche de ses parents. C'est-à-dire qu'il s'en fiche des émotions de ses parents. Vous voyez? Donc, quand on lui dit, eh ben, moi, ça me fait plaisir, il se moque en disant, ah, n'importe quoi, tu dis ça. Vous voyez? Mais ça ne veut pas dire qu'au fond de lui, ça ne lui a pas fait du bien. Vous voyez? Donc, c'est intéressant de. L'enfant a besoin, l'adolescent a besoin de sentir qu'on ne fait pas les choses pour l'acheter. Et donc, il vous met face à cette. Il vous renvoie cette image-là. C'est pas peine d'essayer de m'acheter. Il lui dit non, non, en fait, je ne t'achète pas, je te dis juste que moi, ça m'a fait plaisir, voyez, et c'est ce qui va permettre, en fait, à l'enfant de rester en lien avec vous, même si son comportement vous exprime l'inverse. Voyez?
Et peut-être une autre question. Donc vous avez dit qu'il faut cultiver la joie. Alors, quand on effectivement faire l'effort de ne pas se laisser déborder par les petits tracas quotidiens et rester dans la joie, c'est une chose. En revanche, lorsqu'il y a de gros problèmes, la voiture qui a, on a eu un accident, la voiture est au garage, inutilisable, et ça va occasionner des frais supplémentaires, ou bien le papa qui vient de perdre son travail, dans ce
Oui.
cas-là, c'est difficile d'être dans la joie. Est-ce qu'on peut expliquer en toute transparence aux enfants pourquoi les parents sont tristes ou agacés?
Bien sûr. Alors là, on fera attention, ça dépend beaucoup des âges des enfants. Et vous voyez qu'un enfant, il a besoin d'une sécurité pour se sentir aimé, hein. D'ailleurs, il a besoin d'une sécurité affective. Cette sécurité, elle passe aussi par le fait d'être en sécurité, j'allais dire, presque physique, voyez. Et donc, un enfant petit, il faudrait faire attention de ne pas lui déverser notre surplus, j'allais dire, d'émotions. Voyez, on peut dire les choses de façon assez factuelle. Ah ben en ce moment, c'est pas très facile parce que papa n'a pas de travail. Voilà, donc on explique et l'enfant, donc on n'est pas dans un déni face à l'enfant, mais voyez que si vous lui déversez toute l'émotion de l'adulte, qui est légitime hein, en tant qu'adulte, d'être inquiet de ne pas avoir de travail, etc., l'enfant ne sera pas en capacité de la surmonter. Donc, vous voyez, il y a toujours un équilibre à trouver, pas facile, hein, le propre de l'équilibre, c'est que ça n'est pas facile, en se disant, ce que je dis à l'enfant doit toujours être vrai, mais toute vérité n'est pas bonne à dire. Vous voyez? Donc, souvent, d'être capable de mettre des mots va permettre à l'enfant d'être rassuré. Je comprends que maman, en ce moment, voilà, soit un peu inquiète, etc. Donc, on dit les choses pour que l'enfant ait des éléments de compréhension de la situation vécue. Et en même temps, toute vérité n'est pas bonne à dire parce qu'elle est trop lourde pour l'enfant, vous voyez. Et ça sera évidemment au discernement des parents. Ce discernement va évoluer avec l'âge des adultes, enfin avec l'âge des enfants, et on dira plus de choses aux adolescents. Je crois que si déjà on se dit que ce qu'on dit aux enfants doit être vrai, ça, c'est déjà une très grande exigence. En même temps, toute vérité n'est pas bonne à dire parce que l'enfant n'est pas encore en mesure de tout entendre. Voilà, je ne sais pas si je vous donne quelques pistes de réponse à votre question.
Oui, tout à fait.
Mais voyez, par exemple, une maman qui se plaint tout le temps de la vie qu'elle a, eh bien, l'enfant finira par penser, même s'il ne le verbalise pas, ben, pourquoi tu nous as eus, quoi? Oui. Si on se plaint tout le temps de nos enfants, si on se plaint de leur comportement en permanence, si la vie est trop lourde, si... l'enfant il dit, ben, pourquoi tu m'as eu? Hein, je le dis aussi, et c'est parfois un peu rude, mais une maman qui a fait le choix courageux de ne pas travailler à l'extérieur pour être plus présente à ses enfants, si elle leur dit le soir à table, bah, vous êtes vraiment pénible, j'en ai assez, bah, si ça continue comme ça, bah, moi je vais reprendre un boulot parce que vraiment, bah, l'enfant intérieurement il se dit, bah, vas-y, reprends un boulot, hein, si c'est pour être dans un état pareil. Vous voyez, donc ça, c'est pas ajusté, me semble-t-il. Ouais. Moi, en tant que maman, j'ai pris la décision parce que je me suis dit que c'était important pour l'éducation de mes enfants d'être plus présente. J'ai peut-être changé de boulot parce que pour avoir un travail qui soit moins prenant, ou j'ai peut-être décidé, voilà, des choix qui sont courageux parce que, devenue maman, je me saisis de l'enjeu de l'éducation et donc bah, j'ai diminué mon temps de travail, enfin tout ce qui est possible dans la mesure du possible d'aménagement. Ça, c'est ma décision d'adulte. Je n'ai jamais à la faire peser à mes enfants. Vous voyez? Parce que sinon, ils disent, bah, pourquoi tu m'as eu? Bah, vas-y, reprends ton boulot si c'est ça qui t'épanouit. Vous voyez? Donc, les enfants n'ont pas à être la cause de la décision des parents. Les parents ont décidé quelque chose après avoir réfléchi aux enjeux, c'est leur décision, ils n'ont pas à la faire peser à leurs enfants. Ça, c'est très important.
Eh bien, merci beaucoup Inès de Franlieu, nous arrivons au terme de cette émission. Et nous vous retrouvons.
J'étais très heureuse de vous retrouver et aujourd'hui, et puis nous nous disons au mois prochain alors.
Au mois prochain, au revoir.
Merci beaucoup.
Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission « L'éducation, un métier d'éternité » avec Inès de Franlieu. Notre thème d'aujourd'hui, comment cultiver la joie dans nos familles. Et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.